Mais qui sont-ils vraiment ? Eh bien, ce sont ces personnes qui exercent des métiers discrets, parfois méconnus, mais essentiels à notre quotidien. Derrière chaque entreprise, chaque association, chaque grand projet, il y a ces petites mains qui font toute la différence. Alors je vous propose de rencontrer l'un de ces passionnés, de découvrir son métier, son parcours et ce qui le fait vibrer. Un instant pour lever le voile et donner la parole toutes les deux semaines à l'un de ces mystérieux individus au micro de Radio G. Il y a deux semaines, j'ai pu rencontrer et découvrir le parcours de Sébastien Didiot du studio Flipper, qui nous a raconté son quotidien en tant que designer de contenu et partagé ses différentes expériences, notamment lorsqu'il a participé au projet du musée des JO à Lausanne. Je vous invite à retrouver l'émission en podcast sur le site de Radio G, radio-g.fr, ainsi que sur Spotify. En cette période pré-estivale où l'on jongle entre canicule et rafale de vent, je vous propose de continuer à explorer l'univers du design. Aujourd'hui, je vous propose de rencontrer une personne qui pense, réfléchit, conceptualise, modélise certains objets que l'on peut rencontrer dans notre quotidien. Le lien entre le design du produit, sa fonctionnalité, son esthétisme, son impact et son confort, ce héros de l'ombre que je reçois aujourd'hui en fait son quotidien et je vous propose de rencontrer Nicolas Baudin. Salut Nicolas, comment vas-tu ?
Salut, ça va super bien.
Bienvenue dans les studios de Radio G.
Merci.
Alors Nicolas, nous allons passer une petite demi-heure ensemble pour découvrir qui tu es, quel est ton parcours en passant par tes études, bien évidemment dans le design à Nantes, mais surtout ensuite tes divers stages à l'étranger qui t'ont fait entrer dans l'univers du design industriel et permis de vivre plusieurs années à Copenhague, avant de rentrer en France et devenir indépendant avec ta vision et tes valeurs. Puis enfin, je te demanderai de nous partager deux titres de musique que tu apprécies tout particulièrement. Alors, tu es prêt ? On est parti ?
C'est parti.
Très bien. Alors, pour commencer, peux-tu te présenter et nous dire d'où tu viens, Nicolas ?
Alors, donc, je m'appelle Nicolas Baudin, je suis designer industriel, designer produit. Je viens de Nantes, à la base. Mmh. C'est là où j'ai étudié, comme tu l'as dit dans l'introduction.
Ouais.
J'ai étudié là-bas pendant 5 ans, donc d'abord validé un bachelor, puis un cycle master. J'ai pas mal bougé dans le cadre de mes études, à faire des stages pour compléter mes diplômes. Et avant d'arriver sur Angers, donc ça fait maintenant 3 ans que je suis à Angers, je vivais à Copenhague pendant 5 ans, où j'étais designer dans un studio.
Donc c'est récent Angers alors ?
Angers c'est super récent, ouais. Enfin, ça paraît super récent, ça fait déjà 3 ans. Mais...
Ok, et pourquoi Angers ?
Eh ben c'est une histoire perso. En fait, moi j'étais déjà bien installé à Copenhague et j'ai ma copine qui m'avait rejoint sur la dernière année et demie. Elle a essayé de trouver un travail. Enfin, elle avait commencé un stage. Puis elle a cherché un travail. Elle est du monde de la culture.
D'accord.
Donc après pas mal de recherches, elle avait décidé de regarder un peu ce qui se passait en France. Et elle a trouvé un truc à Angers. Et nous, on est tous les deux de la région nantaise. Elle est de Pornic et moi de Nantes. Donc on s'est dit que c'était plutôt une bonne idée de rentrer là-bas, de se rapprocher de la famille. Je suis très très amoureux d'Angers maintenant. Ouais.
Et surtout que tu es passé dans une ville où il fait bon vivre. Donc c'est toujours bon à prendre, on va dire.
Exactement, oui.
Nicolas, tu exerces aujourd'hui un métier qu'on appelle, ou que j'appelle moi, de l'ombre. C'est pour ça que tu es là. Pourrais-tu nous définir de manière simple, comme si c'était une définition du dictionnaire, par exemple, ton métier de designer industriel produit?
Ouais, et ben il y a une phrase qui revient assez régulièrement quand on parle de design produit, on parle d'allier le beau à l'utile.
C'est joliment dit, ouais.
C'est la définition la plus rapide. Après c'est beaucoup plus complexe que ça. Le métier de designer, c'est de créer des produits, d'imaginer les produits de demain, d'accompagner. Moi ce que je fais personnellement, en gros je suis consultant pour des entreprises, donc ça peut être des startups, des entreprises déjà établies, et je travaille souvent avec leur bureau d'études, donc des ingénieurs mécaniques la plupart du temps.
D'accord.
Qui sont salariés de ces entreprises, et je les aide en parallèle d'un cahier des charges à développer des produits. Donc il y a plein de contextes différents. Ça peut être un contexte d'innovation où on va imaginer un produit complètement nouveau, donc on va partir un peu d'une page blanche, ils développent la technologie et en parallèle on s'intéresse au design. Donc le design c'est certes la définition formelle d'un produit.
Oui, on imagine le visuel tout de suite.
Ouais, c'est ça. Quand on parle de design, souvent les gens ont la référence esthétique.
Voilà, bien sûr.
Mais le design, c'est vraiment un travail de fond. On va s'intéresser en fait au comportement humain, comprendre les besoins et les retranscrire dans un objet qui va pas juste être joli, mais qui va être utile et intuitif. Le designer, il va avoir cet œil qui va aller au-delà de la simple technique et de la réalisation du produit. Mmh. Et qui va vraiment s'intéresser à genre qui est la cible de ce produit, à qui cet objet va être utile, et qui va creuser un peu toutes ces questions jusqu'à trouver une réponse formelle qui répond à ses besoins d'utilisateur, soit aussi complètement en lien avec les valeurs
de la marque,
du fabricant, de l'entreprise, oui, qui fabrique, mmh, et aussi à des contraintes plus techniques, donc qui s'inscrit dans une échelle de production adaptée, avec des outils maîtrisés. On peut avoir une production industrielle fiable et stable, et des objets durables. Ça, c'est un peu l'idéal, ouais.
Ok. Eh ben, du nom, il faut penser à tout ça.
Ouais.
Comment en es-tu venu à avoir tout cet œil, toute cette vision? Eh bien, ça, on va le savoir juste après en parlant de ton parcours. Ça fait combien de temps aujourd'hui que tu fais ce métier?
Eh bien, ça fait, en comptant les stages, ça doit faire 9 ans.
9 ans, on approche de la dizaine, dis donc.
Proche de la dizaine, ouais.
Mais avant cela, si on remonte un peu en arrière, quel métier le petit Nicolas rêvait de faire?
Le petit Nicolas, il voulait être architecte.
Ah oui.
Parce que son grand-père était architecte. Il aimait beaucoup dessiner avec son grand-père. Donc, mon grand-père m'avait appris... Il était architecte et aussi il était professeur de perspective aux Beaux-Arts. Et donc, j'ai appris une rigueur de dessin dès mon plus jeune âge, où il m'apprenait ce que c'était la perspective en point de fuite, la perspective valière. Donc, je dessinais souvent avec lui pendant mes vacances d'été. Et moi, enfin, comme tout enfant, en fait, on copie un peu nos exemples, notre famille. Et moi, j'avais découvert ce métier. Je trouvais ça absolument fantastique d'imaginer des maisons, des immeubles.
C'est marrant, ça. En fait, en soi, ton enfance et ton entourage a eu un impact sur le métier, malgré tout, que tu fais aujourd'hui.
Oui, oui, oui.
En tout cas, avant d'en savoir plus sur ton parcours, avec tes études post-bac, comme on l'a tout de suite mentionné, mais qu'on va un peu plus aborder à Nantes, je te propose une première petite pause musicale. Et comme dans chaque émission des Métiers de l'Ombre, j'aime bien demander aux invités les musiques qui rythment la vie de ces héros de l'ombre. Alors toi, Nicolas, quelle musique écoutes-tu en exemple, par exemple, le matin, quand tu te lèves pour aller justement au bureau et pour réfléchir à ton prochain produit à designer?
J'ai pas vraiment de playlist, ou je suis un peu bizarre avec la musique. Le matin, j'aime bien le calme, je suis juste à vélo et le bruit de la ville me suffit, c'est très poétique.
Ok, très bien. Mais en tout cas, en préparant cette émission, tu as posé le doigt sur une en particulier, malgré tout.
Oui.
Vas-y, dis-nous.
J'ai quand même un groupe fétiche, c'est Metronomy, et je crois que je t'ai envoyé, c'est Lately.
Oui, exactement.
Je t'ai envoyé. C'est vrai que cette musique, elle me booste vachement. Ce que j'adore dedans, c'est la batterie. Ça me réveille direct, même si les paroles sont un peu plus lentes, plus, oui, posées. Je trouve qu'il y a une belle dynamique, et comme musique du matin, c'est vrai que celle-là, elle marche pas mal. Ouais.
Je trouve que ça marche même très bien. Mmh. Eh ben, écoutons tout de suite Metronomy, Lately.
To get in contact with me, she could be the greatest. I know she'd be the greatest if only she was open to see me. It's alright though, cause I got time. Time isn't my essence and time isn't the line. It's alright though, she'll give me a buzz. I'll call her my baby and she'll call me her cuz. Well, I think I'm in love cuz lately I'll call you. I do nothing. Lately, I'll call you when I do nothing. That is love. Yeah, that is love when it's hard to do. It's a job for two. I've so much work to do now.
that's worked for you. Cause lately I'll call you when I do nothing. Lately I'll call you when I do nothing.
De retour dans les métiers de l'ombre, vous nous écoutez sur Radio G101.5 FM et aujourd'hui je suis avec Nicolas Boda, designer industriel produit. Alors Nicolas, pourquoi ce choix de faire des études? Alors tu nous l'as raconté un petit peu, ça vient de ton enfance et de ton grand-père, mais malgré tout tu fais quand même ce choix d'aller dans le design et plus particulièrement dans le design produit. Pourquoi ce choix?
Eh ben c'était pas un choix absolu dès le début. Moi, j'avais vraiment essayé de devenir architecte. J'étais pas super bon au lycée. J'ai toujours été un élève moyen. Et les maths, c'était vraiment pas mon fort. J'aimais beaucoup la géométrie, mais ça suffisait pas.
Oui.
J'avais essayé d'intégrer l'École nationale d'architecture, mais j'avais pas de bulletin assez suffisant. Donc, je voulais quand même m'orienter dans un métier de la création. Mais apparu le design produit comme une évidence. En fait, j'étais au lycée avec mon meilleur ami, on avait un peu les mêmes centres d'intérêt, on était dans un groupe de dessin ensemble.
Ah oui, d'accord.
On avait le même prof. Hein. Et lui, il m'a parlé soudainement, je crois, on était en terminale de l'école de design de Nantes. Et c'est vrai que tout de suite, je me suis dit que ouais, c'est en fait le design produit, c'est carrément quelque chose qui m'intéresse et c'est aussi vachement proche de l'architecture à une autre échelle. Et donc, je me suis inscrit. J'ai passé le concours d'entrée pour l'école et ça a déroulé derrière.
Et ouais, c'est ça.
Et j'y suis toujours.
Exactement. Donc au final, c'était le bon choix à faire.
Ouais, je pense.
Et c'est grâce à tes études que tu as pu faire des stages à l'étranger. Et tu commences par Bilbao, où là, ta maître de stage s'est un peu trompé en lisant ton CV.
C'est une histoire marrante.
Est-ce que tu peux nous raconter?
Ah, c'est une histoire marrante maintenant, mais à l'époque, pas du tout.
Oui, parce qu'apparemment, c'était pas de tout repos comme
ça. Non, pas du tout. Ça va, c'était pas super long, c'était 3-4 mois. Mais ouais, comme tout stage, surtout quand on est jeune étudiant, c'est pas mal compliqué à trouver. Quoi. Pas grand monde veut dédier du temps aux jeunes qui sont pas forcément formés. Et donc moi, j'avais fait marcher le piston. Donc j'avais l'ami de mes parents qui connaissait cette dame, qui avait un studio de design à Bilbao, qui faisait de l'art de la table, s'appelle Coupley. Très très chouette ce qu'ils font. Ils font pas mal de porcelaine pour les restaurants étoilés, vraiment dans le monde entier, c'est super quali. Et donc moi j'arrive ce stage, j'avais envoyé mon CV, ce qu'il fallait, via l'ami de mes parents, tout ça, et ça a été validé très vite, un peu trop vite, bizarrement.
Oui.
Et quand je suis arrivé à Bilbao, c'était en septembre 2015, un truc comme ça. Ma maître de stage n'était pas là le premier jour. Et elle est arrivée le deuxième jour, je crois. Elle est juste passée trois quarts d'heure, un truc comme ça. Et elle a commencé directement à parler en espagnol. Moi, j'avais dit que je parlais espagnol, mais niveau scolaire, quoi. Je comprends quasi tout. Et j'arrivais à parler décemment, mais pas. Fallait me parler doucement, quoi. Elle avait zéro patience. Elle m'a demandé tout de suite de faire des trucs ultra techniques. Moi, j'étais un peu en panique. Je commençais à bidouiller, tout ça. Et repassait le lendemain. Et elle était furieuse. Elle comprenait pas pourquoi j'avançais pas. Elle m'avait pris un truc à Dieu à un moment pour me dire mais tu te rends compte, tu m'as menti, c'est pas du tout ce que j'attendais de toi, moi je croyais que t'étais formé, que t'allais m'aider sur des choses beaucoup plus concrètes. Et moi dans mon espagnol tout cassé, j'essaie d'expliquer que bah non, c'était un peu le deal, j'étais toujours en formation, ça faisait que 2 ans que j'ai fait ce métier et tout. Et donc j'ai passé ces 3 mois à bosser comme un acharné, à apprendre tout ce que je savais pas, les logiciels, la modélisation.
Oui.
Mais ouais, donc ça a été ultra formateur. Et je pense que je suis revenu de ce stage genre vraiment grandi. Ça
oui.
m'a mis, c'était un bain assez glacé d'une première expérience pro dans le monde du design. Mais,
ça ouais. a mis tout de suite le pied à l'étrier.
Exactement.
Et ça t'a formé malgré tout. C'est un mal pour un bien.
Ouais,
mais
clairement.
Tu poursuis ensuite vers un autre stage, et celui-ci à Amsterdam, où pareil, une belle petite première petite mission avec ton maître de stage qui a plutôt marqué ton esprit.
Ouais. Ouais, c'est à chaque fois c'est le premier souvenir qui me vient quand je repense à cette période. Donc pareil, c'était un stage un peu plus long, c'était la transition pour entre mon bachelor et mon master. Et donc j'ai atterri à Amsterdam chez Ernst Hallinga, donc un artiste designer. Donc là c'était un peu particulier, c'était pas vraiment le design qu'on nous apprenait à l'école, c'était vraiment de l'objet dédié à plus de l'exposition. C'est vraiment une fine frontière entre ouais art et design.
D'accord.
C'était l'œuvre d'art, mais en même temps de l'objet utile. Et lui, il était plutôt spécialisé dans le luminaire. Et il avait cet événement qui était en lien avec le Stedelijk Museum, qui est le musée d'art moderne de Amsterdam. Et le Ballet de Marseille, en fait, tournait depuis déjà quelques années avec une création qu'il avait faite qui s'appelle la Chain Reaction, qui est une énorme lampe suspendue, donc en forme d'anneau, l'anneau fait 8 mètres de diamètre. Et elle est reliée par 3 moteurs, donc cette lampe, en fait, elle oscille, elle bouge et elle change d'intensité. L'idée, c'était de représenter un peu via la lumière le mouvement du soleil ou le temps qui passe. Et notre mission, ma première mission en tant que nouveau stagiaire dans ce studio, c'était de prévoir l'installation de cette lampe dans le faux plafond du musée. Et dès le deuxième jour, aller sur place, donc rendez-vous à 6h du matin devant le musée avec mon nouveau maître de stage, rentrer par la petite porte derrière avec la sécurité, monter sur les toits avec genre le lever du soleil sur la place des musées d'Amsterdam, qui est absolument magnifique, pour ensuite se faufiler dans le faux plafond et installer ses moteurs sur un truc très très flippant.
Ah oui, c'est
pas du tout sécurisé, c'était vraiment un faux plafond en plexi avec toute une charpente métallique. On faisait de l'équilibre entre les charpentes. Si on avait le malheur de marcher sur le plexi, c'était chute libre de 15 mètres. C'était
Bah dis donc, il a bonne conscience, ton
ouais,
ton
ouais, ouais
de stage.
Je me suis dit c'est un peu limite, mais en même temps c'est cool.
Oui, c'est sûr. Puis un troisième stage entre dans ta vie et qui a eu un impact sur ton avenir professionnel, c'est à Copenhague. Mmh. Car là, tu as commencé à vraiment à travailler là-bas et tu y es resté 5 ans. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé et quel était ton quotidien là-bas ?
Eh ben Copenhague, ouais, du coup, c'était mon stage de fin d'études. Donc, pour valider son diplôme de master dans mon école, il fallait valider un stage de 6 mois. Et j'ai trouvé cette opportunité à Copenhague. Le stage s'est super bien passé, donc j'ai intégré ce studio qui s'appelle Eskil Hansen Design Studio. Et ouais, super stage. Là, c'était vraiment, pour le coup, ce que j'avais étudié à l'école, c'était design industriel pur et dur, design global. Donc, on n'était pas que design industriel, c'était il y avait aussi du graphisme, du design UX/UI. Donc, c'était hyper global. On pouvait en fait attaquer, en tant qu'équipe de designer, attaquer un projet de A à Z,
oui.
depuis son développement du produit jusqu'à si c'était de l'objet connecté, les logiciels qui vont avec, le packaging, la mise en forme graphique, enfin tout.
Projet complet.
Ouais, projet super complet. Au bout de ces 6 mois, j'ai eu une offre d'emploi pour finalement rester à Copenhague et continuer. Donc, je suis passé doucement pendant ces 5 ans de designer stagiaire à designer junior, puis designer industriel intermédiaire, jusqu'à devenir senior designer.
Oui, donc très complet avec.
Ouais, vraiment l'évolution. Voilà. Ouais.
Puis, tu décides, comme tu l'as dit tout à l'heure, de revenir en France et de choisir de devenir indépendant. Nouveau choix aussi, tout en restant en lien avec ton employeur de Copenhague.
Ouais.
Tu travaillais en fait à distance presque,
c'est
mais
ça.
Tout en restant toi indépendant et ne faisant plus forcément partie de l'entreprise, c'est ça ?
Ouais.
Et puis après, tu as décidé quand même au bout de quelques années de te détacher un petit peu pour avoir toi ta propre vision et tes propres valeurs.
Ouais.
Donc ma question est la suivante, aujourd'hui, quel est ton quotidien en tant que designer produit à ton compte ?
Ouais, et ben le quotidien, il est assez différent que de bosser dans un studio. Et puis c'est ce que je recherchais en fait en devenant, pour le coup, vraiment indépendant. C'était de pas juste m'intéresser à faire de la 3D, à dessiner des trucs, bosser avec les ingénieurs, mais tout ce qu'il y a autour. Et aussi, je trouve que c'est ce qui est super important dans le métier de designer, c'est pas forcément tes compétences techniques. Ça va au-delà en fait. Ce qui importe vraiment, c'est comment t'arrives à transmettre ta vision. Crois en ta vision et l'influence en fait que tu vas avoir en tant que consultant, tu vois, par rapport à des à d'autres designers. Enfin, n'importe qui peut apprendre la 3D, peut dessiner, mais ce qui prime, c'est surtout de vendre cette vision. De vendre l'esprit, de voir au-delà juste de la forme. Et c'est ce que j'avais envie de développer un peu et de me tester en solo pour voir après ces années d'expérience que je vais aller là-dessus. Donc le quotidien, il est hyper hyper changeant. Je
pense que
tout indépendant passe par là, mais il y a des journées de l'enfer où on fait de la prospection et quand on commence, faut trouver du client.
Exactement.
Donc ça passe beaucoup par ça. On arrive à choper des petits projets par-ci par-là et puis ça va être deux semaines de production hyper intense sur un projet. On va faire de la 3D, sortir des concepts, puis après refaire de la prospection, faire des semaines plus cool où on va avoir plus de temps. Pas être que sur l'ordi, mais faire de la maquette aussi, ça c'est plaisant.
Oui.
Sortir un peu des écrans toujours et faire du dessin. Enfin, y a pas, si je le voulais, il y aurait pas une journée pareille, quoi.
C'est un peu le point commun de tous ces métiers de l'ombre.
Ouais.
En tout cas, ton parcours vraiment très intéressant. Et je suis curieux de découvrir l'anecdote que tu nous as préparée. Mais juste avant, je te propose une seconde petite pause musicale avec une musique intemporelle pour toi. Tu serais capable de l'écouter dans n'importe quelle situation. Laquelle ce serait?
Ce serait Saint-Germain, Sure Thing. En gros, c'est pas une musique que j'écoute tout le temps, mais j'y reviens de temps en temps. Et ce que je trouve vraiment cool dans cette musique, en fait, c'est si je devais en choisir qu'une et d'écouter ça toute ma vie, je me dis que celle-là, elle est pas mal parce qu'en fait, elle touche un peu à tous les genres.
Et, je suis d'accord.
C'est de la house un peu. On peut qualifier ça comme ça, house électro.
Tranquille.
Il y a un beat aussi qui pourrait s'apparenter sur un peu au hip-hop et tout. Et je trouve qu'elle touche à plein de genres musicaux.
Plein de couleurs.
Ouais. Donc je pense qu'elle, celle-là, elle pourrait passer si je devais en choisir qu'une.
Eh ben c'est parfait. Très bien. Écoutons tout de suite Saint-Germain sur Sing. Sur Radio G 101.5 FM et en DAB+, vous écoutez les métiers de l'ombre avec notre invité Nicolas Boda, designer produit industriel. Nicolas, ça va toujours ?
Super.
Parfait. Alors, avec tout ce parcours, ces stages à l'étranger et ton quotidien hors du commun, tu as forcément eu des moments qui t'ont marqué ou des anecdotes que tu peux nous raconter. Alors, je t'écoute.
Alors, Celle-là, elle est pareille, elle est marrante maintenant, mais pas super drôle sur le moment où c'était passé. Donc c'était à Copenhague. J'étais plus stagiaire. Je crois que je venais de passer designer junior. Et on bossait en parallèle des projets du studio sur un projet semi-perso. Enfin, c'était un peu bizarre. En gros, mon boss était associé avec un de ses meilleurs amis, qui était à l'époque, je sais plus où il est rendu maintenant, mais la cinquième fortune du Danemark.
Ah oui.
Plutôt un super ami.
Ah oui, plutôt, ouais.
Et ils s'amusaient à développer plein de projets avec ce gars. Et ils ont créé une marque de sauna. Donc il y a un truc qui est super populaire à Copenhague, c'est le bain nordique. Et il y a un gros problème là-bas, parce qu'en fait ça marche par club, et tous les clubs sont absolument saturés. Il y a des temps d'attente de 5-8 ans pour rejoindre les clubs. Donc ils ont eu l'idée de créer un club premium sur le grand canal de Copenhague, et ce serait une péniche en fait. Et l'idée c'était de tester ce premier modèle sur une péniche, et puis le répliquer un peu dans Copenhague d'abord, et puis plusieurs villes de la Scandinavie, okay. même pourquoi pas l'Europe ou le monde.
Bien sûr.
Et donc moi j'étais ils faisaient pas confiance aux architectes, donc je me suis dit, ah super, t'avais toujours rêvé d'être architecte, tiens, ce serait peut-être le moment, quoi. Je me suis mis sur ce projet, et donc on a développé la péniche, cette péniche ensemble, et fallait y intégrer le plus gros sauna de Copenhague. Et j'ai bossé sur cette péniche, et j'ai fait je sais plus combien de modèles dans le studio de design dans lequel on était. Je mettais du scotch partout par terre pour essayer de me représenter les couloirs, enfin c'était vraiment amusant, quoi.
Ouais.
Mais je me faisais complètement exploiter sur le truc, et un jour il a fait un truc un peu abusé. Il me demande de lui apporter des plans dans une certaine échelle, avec les impressions en 3D en plus à l'échelle des derniers concepts que j'avais fait pour cette péniche. Et il me dit, rejoins-moi à cette adresse-là. Et je me dis, ah, tiens, c'est bizarre, c'est pas chez lui.
Oui.
Et donc il m'envoie cette adresse, et il me dit, ouais, c'est un club de sport privé, je suis avec Thijs, donc mon ami. On finit notre séance de sport dans 45 minutes, tu peux nous attendre dans le hall et on récupère les plans, quoi. Et donc je suis arrivé dans cette salle de sport, genre ultra luxurieuse, genre un truc complètement abusé. Et j'ai attendu. Et ouais, ils avaient 20 minutes de retard, 30 minutes de retard, je sais plus. Et t'attends, t'es là avec tes plans, et tu sais pas ce que tu fous là, t'as envie d'entrer chez toi et tout. Et ils sont sortis au calme, en se faisant des blagues, pour récupérer les trucs et dire, ah ouais, super, ouais, merci beaucoup, bonne soirée.
Ah oui,
ouais, c'est ouais, tout. Ouais. Et puis ciao, quoi. Et c'est là où vraiment je me suis rendu compte que c'était pas ultra sain. Et oui. C'est en fait ce qui a engendré aussi un peu le fait que je me mette en indépendant derrière.
Oui, d'accord. Ouais.
Il y avait tout plein de raisons et tout, mais voilà.
Ah oui. Nicolas, on arrive à la fin de cette émission. Aujourd'hui, tu es fier de ton parcours.
Ouais, super fier.
Si on enlève l'anecdote qui vient d'être.
C'est vrai que c'est pas le meilleur exemple pour présenter mon métier.
C'est clair.
Ça fait vraiment métier de l'ombre pour le coup.
Oui, totalement. Mais actuellement, en tout cas, là où tu es aujourd'hui, si tu prends du recul avec toutes tes expériences et tout ce que t'as appris au fur et à mesure, tu es fier, ouais, de ton parcours.
Ouais, ouais, je suis assez fier, ouais. Ouais. Et vraiment, en fait, c'est quelque chose qui m'a un peu sauté aux yeux en devenant indépendant. Donc réellement, il y a 2 ans. Et de refaire un peu, tu vois, tu cherches ton identité, tu recrées un peu ton studio, quoi.
Bien sûr.
Tu dis maintenant, c'est mes valeurs,
Oui, c'est ça.
C'est moi le.
C'est mon truc à moi.
C'est moi le capitaine.
Ouais.
Et de retracer un peu tout son portfolio, tous les projets qu'on a fait, les clients avec qui on a parlé, son réseau, tout ça.
Oui.
Ouais, je me dis que j'ai abattu quand même un peu de boulot sur ces dernières années, et je suis assez content de là où je suis. Ouais.
C'est un métier passion.
Ouais, c'est un métier passion, ouais, carrément. Ouais. J'y pense tout le temps. Vraiment, c'est pas juste genre je claque l'ordi et puis je passe à autre chose. C'est quelque chose que j'ai en tête tout le temps quand je fais du sport. Je réfléchis à mes projets, je me dis tiens, putain, je pourrais essayer ça, ce design là ou ce concept là, je l'ai pas vu comme ça. C'est vrai que le client m'avait fait ce retour, et enfin, c'est quelque chose qui t'habite au quotidien, quoi.
Mais pas de manière négative, donc c'est ça qui
est important. Non, pas du tout de manière négative, non. Non, non. Vraiment, c'est quelque chose que je fais avec plaisir tout le temps. Ouais.
Et bien, en tout cas, c'est ce que l'on souhaite à chacun dans son métier. Nicolas, un grand merci. D'avoir été avec nous.
Merci beaucoup pour l'invitation.
Avec grand plaisir. En tout cas, c'était passionnant de découvrir ton univers, l'envers de ton quotidien en tant que designer, produit industriel. J'espère que nos auditeurs auront désormais un regard différent sur ce métier de l'ombre. Bonne continuation à toi et plein de beaux projets.
Merci beaucoup.
En attendant, nous on se retrouve dans 2 semaines, juste après les Voix de l'Écho. Excellente journée à tous et n'oubliez pas, chaque voix mérite d'être entendue. À dans 2 semaines, bye.
G, Radio G, Radio G, 101.5 FM.
Savourez nos différences.
Yo, what's up? This is Polo Boy. I'm here with Nick Jones. Listen, I love to you, Karen.